Bon, on est presque 3 minutes dépassées dans le temps, ce qu'on va commencer. Je vais vous mettre en sourdine. Puis aussi, je voulais juste vous dire lundi prochain, lundi prochain, ça va être le 22 avril. Je serai pas disponible pour la réunion. Je vais être à la TUC pour la réunion du soir, le lundi soir à la TUC, donc je pourrai pas. Ça va aller au 29 d'avril. Ouais, on va pouvoir commencer. Donc, je vous mets en sourdine, puis on va commencer. Pas moi, mais attendez un petit peu. C'est bon. Donc, on commence. On est dans l'étude le mystère des sept chandeliers, les sept étoiles, les sept chandeliers dans l'Apocalypse. Et on avait dit que le Seigneur, il révèle que les sept étoiles, c'est les messagers, puis les sept chandeliers, c'est les sept églises à qui le Seigneur adresse un message. On avait dit aussi que le livre complet de l'Apocalypse est un message envoyé aux sept églises. On avait dit que dans le chapitre 1, c'était concernant le Seigneur Jésus-Christ. Dans les chapitres 2 et 3, là, c'est un message qui est adressé aux églises. On avait dit que le jugement commence par la maison de Dieu, parce que l'Apocalypse, c'est un livre de jugement. Et c'est le jugement commençant par la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus donne son évaluation des sept églises de l'Asie mineure pour ensuite révéler. On sait qu'au chapitre 4, Jean est appelé à monter. Il y a une fenêtre ouverte dans le ciel, puis il monte en type de l'église qui est enlevée avant la tribulation, parce que le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, je te garderai de l'heure ou hors de l'heure, ce que ça veut dire, de la tribulation qui va venir sur toute la terre. Pour les habitants, ça c'est le jugement qu'on voit à la fin, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin. Puis à la fin, ben, on voit les noces de l'agneau, l'église de la Nouvelle Jérusalem qui vient. Donc, on avait parlé de ces choses-là. On avait dit que l'interprétation des sept églises, les messages donnés aux sept églises de l'Asie mineure, il y avait d'abord une interprétation qui est reçue de tous. C'est des lettres qui étaient écrites. Historiquement, ces sept églises-là existaient au moment où Jean a écrit ces sept lettres-là aux églises qui venait du Seigneur Jésus-Christ, le message qui venait du Seigneur Jésus-Christ et qui était réel à ce moment-là. L'autre application qu'on peut faire ou interprétation qu'on peut en faire, c'est que elle est spirituelle et pratique, c'est-à-dire que dans tous les âges de l'Église, dans tout le temps de l'Église, il y a toujours eu des églises, ça pouvait représenter des églises dans différents endroits qui avait le même caractère que ces sept églises-là, puis le message peut s'appliquer à ces églises-là, comme aujourd'hui, on peut se reconnaître dans ces églises-là, puis recevoir le message qui nous est bénéfique. On sait que la parole de Dieu nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour instruire dans la justice, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est les deux interprétations qui sont reçues par la plupart des évangéliques, mais il y en a une troisième qu'on avait parlé la dernière fois, c'est que c'est une interprétation prophétique et représentative. Donc, parce que ça nous parle, c'est comme un tableau que le Seigneur nous a brossé de l'histoire de l'Église. C'est qu'il y a des gens qui disent, ben, si c'était comme ça, bien, on n'aurait pas attendu le Seigneur n'importe quand. Mais comme on a vu, c'est un mystère qui nous est révélé. Puis le Seigneur, lui, c'est sûr qu'il connaît l'histoire de la fin, du début à la fin. Lui, il savait exactement ce qui allait se passer. Puis, donc, c'est quand même, il nous dit toujours que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une phrase qui revient à la conclusion de chacune des lettres aux sept églises. Puis, on avait vu aussi qu'il y avait une sélection. Parmi ces églises-là, dans l'Asie mineure, il y en avait plus que sept, mais ils ont été choisis dans un but pour représenter comme l'histoire de l'Église. Puis on voit aussi que l'interprétation est en accord avec C'est sûr, quand on parle de l'histoire de l'Église, c'est en général. C'est sûr que dans l'histoire de l'Église, il y a eu. Mais quand on regarde l'histoire de l'Église, on regarde en général qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église. Puis les historiens nous ils divisent l'Église, l'histoire de l'Église en sept périodes. Puis on voit que ces sept périodes, on va la regarder un petit peu en regardant chacune des églises. C'est qu'on va lire peut-être quelques versets. On n'ira pas le chapitre 2 et 3 au complet, c'est quand même assez long, mais on va lire peut-être un petit peu l'introduction à chaque église. Dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, au verset 1, il nous dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. On va aller maintenant au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Au verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. On est maintenant dans le chapitre 3, verset 1. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Au verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et au verset 14, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. On va s'arrêter là pour la lecture. On va demander au Seigneur de nous aider dans notre étude. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole qui est vraiment merveilleuse, notre Dieu. Les choses que tu nous dis, on les prend comme venant de toi, comme un message pour nous aussi que le Seigneur Jésus a envoyé. Ces lettres-là, demander à Jean d'écrire ces lettres et de les envoyer aux sept églises. Eh bien, nous aussi, Seigneur, on reçoit ces messages et on te demande de nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire, quand tu veux nous reprendre, quand tu veux nous approuver. On te remercie pour tout cela, Seigneur. Ton jugement pour nous est bénéfique. On t'en rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on voit que le Seigneur, la façon qu'il se présente à ces sept églises-là, ben c'est des particularités qui ont été révélées de lui dans le chapitre 1, dans la révélation de Jésus-Christ. Donc, on revoit les choses qui ont été dites du Seigneur Jésus-Christ, mais chacun en rapport avec sa situation à chaque église. OK. Maintenant, on va regarder un peu la signification des noms pour démontrer aussi le fait que ça peut être un tableau prophétique de l'histoire de l'Église, parce que quand on regarde la signification de chacune de ces églises-là, c'est pour cela qu'ils ont été choisis pour être comme une leçon d'objet dans un sens. Mais Éphèse veut dire désiré ou désirable. Puis, donc, le mot Éphèse veut dire désiré ou désirable. C'est un terme qui est utilisé par un amoureux pour celle de son choix. C'est un peu comme quand quelqu'un choisit une femme qu'il veut épouser. C'est un peu ce terme-là, là, désiré, désirable. Smyrne veut dire myrrhe, la myrrhe qui représente les souffrances. Donc, le mot Smyrne veut dire myrrhe qui représente les souffrances de la myrrhe, de l'aloès. Okay. Pergame veut dire marié, parce qu'on parle de polygamie, le mot gamie, ça veut dire Pergame, ça veut dire marié, mais ça veut dire associé au monde. Donc, c'est une église qui était associée au monde. Thyatire veut dire sacrifice continuel. Ça représente l'idolâtrie. Donc, c'est un sacrifice continuel. Ça représente l'idolâtrie. On va voir un petit peu les significations de ces choses-là quand on va regarder par rapport à l'histoire de l'Église. Il dit Sarde veut dire échapper. Donc, qui nous parle du temps de la Réforme. Donc, Sarde, ça veut dire échapper. Philadelphie veut dire l'amour fraternel, l'amour filial. On parle de l'amour filial, c'est Philadelphie. Ça nous parle du réveil. Puis Laodicée, ça veut dire la voix du peuple ou la règle du peuple, ou c'est la dictée du peuple. Donc, on voit que l'interprétation de ces noms-là, c'est des noms c'est de la signification que le nom a. C'est en accord avec l'histoire de l'Église. Comme on a dit, les historiens divisent l'histoire de l'Église en sept périodes. Puis c'est ça qu'on voit ici, selon les historiens. Éphèse, ce qui veut dire désiré et désirable, il nous parle des temps apostoliques. Donc c'est après, au début de l'Église, les temps apostoliques, l'Église d'Éphèse, hein, qui nous dit que ses œuvres étaient encore là. Les œuvres étaient abondantes, puis elle s'est pas lassée, elle s'est pas lassée, mais elle a persévéré. Mais le Seigneur lui fait un reproche, c'est que tu as abandonné ton premier. Tu as pourtant ceci que tu es que les œuvres de Nicolaïte, mais il dit, attends un petit peu, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc c'est eux-mêmes qui ont abandonné leur premier amour. Ils étaient fermes dans un sens, ils étaient encore actifs, ils faisaient des choses même plus qu'avant, mais le motif pour leur action était, ils l'avaient abandonné. Vous savez, quand on fait les choses par amour, c'est une grande puissance dans notre vie, un grand motif pour faire des choses dans notre vie. Pour quand on aime quelqu'un, on va aller au-delà. Donc, mais il y avait des choses qu'ils faisaient, mais une chose que le Seigneur commençait à voir, c'est que l'amour était, ils avaient abandonné leur premier amour. Souvent, on parle du premier amour comme l'amour au début, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Quand on parle de premier amour, c'est première dans les affections. Donc, l'importance dans l'affection, c'est ça qu'ils avaient perdu, là. Puis, on devrait toujours avoir notre premier amour. On ne devrait jamais, on dit, ouais, mais quand on était au début de notre vie chrétienne, on avait notre premier amour, on était zélé. On devrait toujours avoir ce premier amour-là. C'est sûr qu'au début, la plupart du temps, on vient connaître le Seigneur Jésus, puis on est comme attaché à lui, on apprécie qu'est-ce qu'il a fait pour nous, mais lui doit être premier dans nos affections. C'est ça que ça veut dire le premier amour ici. Donc, après les temps apostoliques, ils ont commencé à délaisser ce premier amour-là. Mais il y a une chose à remarquer, que le Seigneur fait des reproches à toutes les églises sauf deux. Puis c'est remarquable quand on voit ces deux églises-là auxquelles il ne fait pas de reproches, qui donnent une approbation, ne sont pas nécessairement puissants, ne sont pas nécessairement nombreux. Aujourd'hui, on juge beaucoup le succès d'une église quand il y a un grand nombre. Mais le Seigneur n'est pas impressionné par le nombre. Le Seigneur est beaucoup plus impressionné par l'amour, l'attachement qu'on a au Seigneur Jésus-Christ, le dévouement qu'on a au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est plus impressionné par ça qu'un grand nombre qui, comme on voit à la Odyssée, ils pensent qu'ils sont riches, ils se sont enrichis, ils ont besoin de rien, mais le Seigneur leur fait un gros reproche à eux autres parce qu'ils ont comme perdu de vue le Seigneur. Donc, c'est important de voir ces choses-là. Donc, quand on parle de Smyrne, qui veut dire la souffrance, bien ça nous parle de la persécution. L'Église, après les temps apostoliques, l'Église est entrée dans un temps de persécution par les empereurs. Il y a eu 10 empereurs de l'Empire romain qui ont persécuté l'Église, c'est sûr, en commençant par Néron, qui ont persécuté l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église était dans un temps de faiblesse, mais appuyé sur son sauveur. Et il y a eu 10, tout ça qui parle d'une persécution de 10 jours à cette église-là, l'église de Smyrne. Donc, c'est sûr que dans un temps difficile, on n'a pas le choix de se tenir près du Seigneur parce qu'il fallait qu'il soit attaché au Seigneur. Parce que si, dans les persécutions, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de renier le Seigneur, puis il était libéré. Mais parce qu'ils ne voulaient pas adorer César, parce qu'ils ne voulaient pas renier le nom du Seigneur Jésus, bien, ils étaient persécutés, parce que le Seigneur Jésus était persécuté. Donc, ça, c'est le temps des persécutions sous les 10 empereurs romains. Jusqu'à un moment donné, on arrive à Pergame, Pergame qui veut dire marié. Puis là, c'est au point où le Constantin, lui, a professé être. Se convertir au christianisme. Puis, mais c'est là que quand l'empereur, au lieu de persécuter, qui s'est associé, c'est le monde qui s'est associé à l'Église à ce moment-là, puis il a formé une religion d'État, Constantin, parce que là maintenant, les gens se convertissaient au christianisme, pas de cœur, mais parce que c'était avantageux d'être dans la religion de l'empereur. Si on était en bonne faveur avec l'empereur, fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers le christianisme mais pas de conversion de cœur, mais parce que c'était bien vu, l'Empire de Rome maintenant, avec l'empereur qui était, il est devenu un peu comme le chef de l'Église. À cause de sa position, on lui a donné le chef de l'Église. Mais ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a eu une grande. On s'est détourné beaucoup de la parole de Dieu à ce moment-là, parce que les gens n'étant pas convertis réellement, qu'est-ce qui arrivait? Ben, ces gens-là, ils n'avaient pas de changement, il n'y avait pas de sanctification. Et les gens, ils voulaient continuer, ils étaient chrétiens, mais tout en faisant en adorant les idoles qu'ils avaient auparavant. Donc, à ce moment-là, ben, ça paraissait pas bien, des chrétiens qui adoraient des idoles. Fait que c'est là qu'on est venu avec le culte des saints. On a commencé à dire, ben, au lieu de l'appeler Jupiter, ben, on va lui donner un nom chrétien, puis ça va être mieux, là. Puis la Diane des Éphésiens, ou cette divinité-là, une femme qui porte un enfant, Dieu, dans ses bras, bien, on l'appelait Marie, puis ça va être le Seigneur Jésus. Donc, c'est là qu'on le monde est entré dans l'Église. Quand le monde était en dehors de l'Église, puis que le monde persécutait l'Église, la pression venait de l'extérieur. Quand la pression vient de l'extérieur, ça nous pousse vers le Seigneur. Mais si la pression entre à l'intérieur, elle nous sépare du Seigneur. Ça vient entre nous et le Seigneur, mais là, la pression va nous éloigner du Seigneur. C'est ça qui est arrivé à un moment donné. C'est là qu'il y a eu, c'était des fausses conversions. Puis, ce qui est arrivé, ben, ça a fait une religion d'État. Puis, c'était plus le Seigneur Jésus qui était le chef de l'Église. C'était comme Constantin qui était le chef de l'Église. Ce qui a amené à la prochaine Église qui est Thyatire. Thyatire, qui veut dire, c'est un sacrifice continuel. Ça, c'est le Moyen Âge, le système catholique, l'idolâtrie qui s'est mélangée à l'Église. Toute une idolâtrie, au point que maintenant, on adore plein de. C'est comme des divinités, mais on leur a donné des noms qui sont plus acceptables, des noms chrétiens, les saints, les Marie. Mais c'est vraiment maintenant, on voit que l'Église au Moyen Âge, c'était vraiment une Église idolâtre. Puis le Seigneur, il dit ces choses-là, là. Il dit au verset 19 du chapitre 2, il dit: Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repente de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Quand il donne une approbation au début, une chose qu'il faut toujours se souvenir, c'est qu'à travers toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu un reste fidèle. Un peu comme dans le peuple d'Israël, on appelle un reste fidèle. Quand la masse s'est détournée, il y a toujours eu des individus, peut-être en plus petit nombre, qui ont demeuré fidèles, soit dans le peuple d'Israël, même dans le temps d'Élie, quand Élie a dit qu'il était resté seul, que le peuple s'était tout détourné. On sait que le peuple s'était détourné vers Baal à cause de Jézabel. Mais le Seigneur a dit à Élie, il y a 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc, il y a toujours, même dans le temps de l'Église, puis un livre qui est très intéressant sur l'histoire de l'Église, c'est l'Église ignorée, puis qui vraiment suit la lignée depuis le temps des apôtres jusqu'à la fin de l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui ont été persécutés par l'Église d'État, parce qu'ils ont vu comme des dissidents, parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à l'Église, ils ne voulaient pas se soumettre au pape, et on les a vus comme des dissidents. Ils ont été persécutés, mais ils ont resté dans une certaine faiblesse au point de vue humain, mais ils ont resté attachés à la parole de Dieu. Ils ont resté attachés au Seigneur Jésus-Christ au prix d'être des gens qui étaient des dissidents. Mais quand le Seigneur dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner, elle qui se dit prophétesse, là, on sait que l'autorité est donnée à l'homme dans l'Église, mais parce qu'il représente le Seigneur Jésus-Christ. Mais là, la femme, elle représente l'Église. Donc maintenant, c'est cette Église-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit prophétesse. C'est elle qui a commencé à usurper l'autorité. On se souvient bien, ceux qui ont grandi catholiques, on avait les commandements de Dieu, mais on avait aussi les commandements de l'Église. Donc, c'est l'Église maintenant qui devenait l'autorité et il fallait obéir à l'Église en premier. Notre Sainte Mère, l'Église, il fallait obéir à cette Église-là. Donc, elle a usurpé l'autorité du Seigneur Jésus-Christ qui, lui seul, est la tête de l'Église. Puis, c'est l'Église qui a commencé à dire aux gens ce qu'ils devaient faire. Puis, comme il dit ici, là, elle enseignait pour qu'ils se livrent. Qui se dit prophétesse, enseignez et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Puis quand on regarde tout le système, comment l'idolâtrie était tellement prévalente, les gens adoraient n'importe qui, même on pense même au culte des anciens, là, des aïeux, là, tu sais, des gens qui sont, il y a des gens qui, dans la région, ils disent, oh, moi, ben, je prie mon grand-père ou je prie ma grand-mère ou on s'adresse, quand la parole de Dieu est très claire, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qu'il y a un seul chemin, le Seigneur Jésus, qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on s'est complètement détourné, mais c'est pas, le Seigneur quand même donne une approbation à ceux qui ne se sont pas détournés. C'est ça qui est important. Quand la masse se détourne, il faut rester, nous, attachés à la parole de Dieu. Puis le Seigneur sait ce qu'il va approuver. C'est ça qu'il veut. Il veut pas. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'il allait approuver la popularité, mais qu'il allait approuver la fidélité. Fidélité à sa parole. Ensuite de ça, ben, on arrive à l'Église de Sardes. L'Église de Sardes, le mot qui veut dire échapper. Puis là, ça nous fait penser à la Réforme. La Réforme, on pense à Luther en premier lieu, mais il y avait plusieurs réformateurs. Qui, eux, c'est Luther a été marquant parce que Luther a fait, il s'est opposé à l'Église catholique en affichant les 96 thèses sur l'Église de Luther, qui a affiché ses thèses-là contre l'Église catholique parce que lui, il est revenu au salut par la foi. On avait même perdu de vue le salut par la foi. C'était un salut qui est prêché encore dans ce système-là, un salut par les œuvres, mais lui a vu que le juste vivra par la foi, puis il en est venu à reconnaître que le salut n'était pas sur la base d'œuvres que nous avions accomplies, mais sur la foi en Jésus-Christ il s'était donné pour nous sur la croix. Donc ça, c'est l'échappée. Il y a eu une. Lui a été excommunié. Puis, on a eu les réformateurs qui ont revenu, dans un sens, à la parole de Dieu. On voit, ils disent sola scriptura. Ben, ils ont revenu à la parole de Dieu. C'est à ce moment-là, vous savez, dans l'Église catholique, c'est quoi qui est le centre de la messe? Ben, c'est la communion. La communion, c'est un modèle déformé du repas du Seigneur, mais c'est ça qui était important. Mais dans la Réforme, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on a négligé la parole de Dieu, puis c'était vrai, on avait négligé la parole de Dieu. C'est qu'on a mis la parole de Dieu en premier plan. Donc, c'était la prédication. Puis c'est là qu'on a vu des gens qui ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Puis on a mis le repas du Seigneur comme en arrière-plan un petit peu. C'est pour ça qu'on voit beaucoup dans les dénominations où le repas du Seigneur, c'est juste une fois par mois, puis c'est pas l'emphase, c'est quelque chose d'attaché à la réunion de la prédication de la parole, mais la prédication de la parole a pris la première place. Ce n'est pas mauvais d'avoir la prédication de la parole, mais le repas du Seigneur devait avoir sa place. C'était important que le Seigneur Jésus avait dit dans la nuit même où il fut livré, c'était précieux pour lui, faites ceci en mémoire de moi. À toutes les fois que vous le faites, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est important, le repas du Seigneur. C'est pas qu'on garde la parole de Dieu comme importante, mais le souvenir du Seigneur Jésus-Christ. C'est important, vous savez, à travers toute l'histoire de l'Église, quoi, qu'on se souvienne de l'offrande du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, son œuvre de rédemption qu'il a accomplie pour nous, le fait qu'il est, et Paul le disait aux Corinthiens, il disait, l'Évangile, c'est que Christ est mort selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça, c'est bien important de garder. Puis, vous savez, quand on vient au repas du Seigneur, on se sent, on revient toujours à ce point-là pour, puis dit qu'on proclame la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, c'est un point important. Mais le Seigneur, il fait des reproches quand même à cette église-là, l'église de Sardes. Regardez ce qu'il dit au verset, au chapitre 3, au verset 1. Il dit, écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Quand il dit ça, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. C'est quand même quelque chose parce qu'on voit qu'ils ont revenu au salut par la foi. Mais comment qu'on entrait dans l'Église? Parce qu'on a, dans la Réforme, on a formé d'autres églises sur le modèle de l'Église catholique, avec quelques différences, mais quand même avec le clergé, avec tout ce qui était dans l'Église catholique, on a formé des églises d'État, hein, pour les luthériens en Allemagne, les réformés en Suisse, et ainsi de suite. On a formé des églises sur le modèle un peu de, avec quelques variances, mais comment on entrait dans l'Église à ce moment-là? On entrait dans l'Église comme dans l'Église catholique, par le baptême. On pratiquait le baptême des enfants, les enfants qui naissaient de ces familles-là, qui faisaient partie de ces églises d'État-là, ben, on les baptisait à la naissance, puis ils entraient dans l'Église. Mais ils n'étaient pas convertis. Qu'est-ce que ça va faire si on fait entrer des inconvertis, qu'on remplit l'Église d'inconvertis? Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, l'Évangile n'est plus prêché, parce que ceux qui ne connaissent pas l'Évangile ne prêcheront pas l'Évangile. Et c'est ça qui est arrivé dans ces églises-là, c'est qu'à un moment donné, la plupart de ces gens-là n'étaient pas sauvés. Les premiers, eux, étaient sauvés, mais les enfants ont entré dans ces églises-là sans passer par la nouvelle naissance, sans se convertir puis recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Donc, pour eux, ils se croyaient corrects comme étant dans l'Église, un peu comme quand on était dans l'Église catholique, on pensait qu'on était correct. Mais le Seigneur avait dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Puis Nicodème a dit, mais comment cela peut-il se faire? Le Seigneur Jésus lui avait dit, tu es le docteur d'Israël, puis tu ne sais pas ces choses. Il dit, on rend témoignage de ce qu'on connaît, mais on ne peut pas rendre témoignage de ce qu'on ne connaît pas. Puis c'est ce qui arrivait dans ces églises-là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, sois vigilant au verset 2 et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voyez-vous, ils ont revenu au salut par la foi, mais les œuvres n'étaient pas parfaites. Pourquoi que les œuvres n'étaient pas parfaites? Regardez au verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu n'éveilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Mais il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc là, ils ont pas, quand ils ont trouvé le salut dans la parole, au lieu de rechercher la parole pour savoir comment l'Église fonctionnait, quelle était, on parle de l'eschatologie, les temps de la fin, ils n'ont pas découvert ces choses-là. On pense aussi au fonctionnement de l'Église. On n'a pas découvert ces choses-là. Donc, on s'est arrêté, on a trouvé le salut par la foi, on s'est arrêté là, puis on n'a pas poussé plus loin. C'est ça que le Seigneur, il dit, souviens-toi comment tu as reçu et entendu la parole, puis repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Voyez-vous, il parle du retour du Seigneur, là. Le retour du Seigneur, était pas, il n'avait pas été découvert à ce moment-là. Il n'avait pas été redécouvert. On pensait encore à la fin du monde comme l'Église catholique, avec à la fin, un peu, c'est comme le jugement des nations vivantes sur la terre qu'on attribuait à toutes. Et puis, on ne voyait pas les différences. Puis, ce qui est important, le retour du Seigneur, l'espérance de l'Église, c'est quoi? C'est pas la tribulation, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ pour enlever son Église, pour l'emmener avec lui. C'est pour ça que la théologie de la Réforme ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Il n'avait pas découvert ces choses-là. Donc, Seigneur lui dit de se repentir, c'est comme de retourner à la parole puis d'approfondir la parole. Mais à ce moment-là, il y a des gens qui ont vu, c'est là qu'on a vu plein de dénominations surgir. Puis là, à ce moment-là, il y en a qui se sont demandé, il y avait un problème, parce que l'Église, on sait, l'unité de l'Église, c'est un thème très important dans la parole de Dieu. Mais là, on avait des gens qui étaient convertis, mais qui étaient dans toutes des différentes dénominations. Puis, ils se sont dit, les autres, comment on peut avoir de la communion ensemble, on peut pas adorer Dieu ensemble, on peut pas fonctionner ensemble. Fait qu'ils se sont demandé quel était le problème. Puis ça l'a amené à l'autre période, qui est la période de Philadelphie. Il y a la période de Philadelphie qui parle de l'amour fraternel. On a voulu l'unité, mais l'unité, ce n'est pas l'œcuménisme. Parce que quand on parle d'unité de l'esprit, c'est quand on se rencontre dans la parole de Dieu, quand on se rencontre dans les instructions de l'esprit de Dieu, dans le fonctionnement. C'est ça qui est important. Parce que si, avec toutes nos différences, on se rassemble comme ça, mais ça fait pas une unité. C'est un peu une conformité, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. On a besoin de retourner. C'est ce que ces gens-là ont fait. Ils sont mis à rechercher dans la parole de Dieu quel était le problème qui suscitait comme ça une division, des divisions et des divisions dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis là, ils ont recherché le centre de l'Église, qui est la tête de l'Église, qui est le Seigneur Jésus. Puis ils ont tout remis en question, tout le système ecclésiastique. Ils ont tout remis en question, puis ils ont recherché vraiment à ce moment-là le fonctionnement de l'Église selon le Nouveau Testament. Puis c'est pas facile, vous savez, il faut se remettre en question devant Dieu, puis rechercher l'instruction de la parole de Dieu, puis elle seule. Donc, ça n'a pas été facile. Puis, même à ce moment-là, vous savez, dans ces églises-là, c'était devenu qu'il fallait avoir fallait être ordonné pour pouvoir prêcher. Puis on n'avait pas le droit de prêcher en dehors de l'église ou des bâtiments de l'église. Donc, quelqu'un qui n'était pas ordonné n'avait pas une licence, n'avait pas le droit de prêcher. Puis, à un moment donné, il y en a qui se sont mis à aller prêcher dehors. Ils ont été prêchés aux foules dehors. Puis là, ils ont été excommuniés, ces gens-là. On pense, il y a les frères Wesley, Whitfield, qui ont commencé, le réveil a commencé un peu avec eux autres, qui se sont mis à prêcher l'Évangile, parce que dans ces églises-là, on ne prêchait plus l'Évangile. Fait qu'eux, ils se sont mis à prêcher l'Évangile, mais ils sont allés vers le peuple. Puis vous savez, il y a ces gens-là, comme Whitfield puis les Wesley, ils allaient prêcher à des mineurs, à des gens dans des champs. Ils prêchaient, puis même, il y avait des gens qui n'étaient pas ordonnés, qui prêchaient l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Puis beaucoup de gens se sont convertis au Seigneur à cause de ça. Parce que dans les églises, on ne prêchait plus l'Évangile. Donc, ils sont allés vers l'extérieur. Puis ça a commencé. Puis ensuite de ça, en étudiant la parole de Dieu, ils sont revenus à une simplicité par rapport au rassemblement. Ils rassemblaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils reconnaissaient la tête, le directeur, le Saint-Esprit qui les dirigeait dans la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit au verset 7 du chapitre 3, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira, voyez-vous, le Seigneur lui ouvrait des portes parce qu'il se tournait vers lui. Il ne se tournait pas vers les organisations d'hommes. Il se tournait vers le Seigneur dans la simplicité de la parole de Dieu. Puis, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, c'est moi qui ouvre les portes. Puis, je vais les ouvrir les portes. mais il n'y a personne qui va pouvoir les former. Il dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Ça, c'est merveilleux, il y a peu de puissance. C'est vrai, dans le réveil, ça n'a pas été une église d'une grande puissance au point de vue humain. Ce n'était pas la puissance des hommes. Vous savez, aujourd'hui, on met beaucoup d'emphase sur des grands hommes. C'était pas ces gens-là, ils ont voulu être ignorés. Ils ne voulaient pas, eux, ils voulaient pas s'élever, eux, faire un grand nom pour eux-mêmes. Ils voulaient élever le Seigneur Jésus-Christ comme la tête de l'Église pour que les chrétiens soient attirés vers le Seigneur Jésus lui-même, puis qu'ils deviennent épris du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est vraiment la seule façon que la sanctification va se faire. J'avais lu un livre une fois de. C'était Alice Van Berchem. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà lu ce livre-là. C'était Cette nuit-là, je choisis Dieu. Puis il y avait il l'appelait le prophète. Il venait, c'est un paysan qui travaillait dans ses champs, puis il méditait la parole de Dieu. Puis il venait de temps en temps les visiter. Puis il leur faisait part de ce qu'il avait découvert dans la parole de Dieu. Puis eux, ils étaient vraiment contents. Puis il avait dit une fois, ça m'a toujours frappé, il dit, on voudrait christianiser des âmes. Quand il dit, la seule façon, c'est de les emmener au Seigneur Jésus-Christ, puis c'est l'attouchement du Seigneur Jésus sur leur âme qui va les christianiser. C'est vrai, la sanctification se fait quand on vient au Seigneur Jésus, puis qu'on est en amour avec le Seigneur Jésus, puis qu'on reçoit son instruction par son esprit, puis c'est lui qui nous transforme. Et nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est ça qu'ils ont découvert. Ils ont venu à cette simplicité-là. La parole de Dieu, en ayant la proximité du Seigneur Jésus avec la puissance de l'Esprit dans la parole de Dieu, ils ont redécouvert tout un enseignement de la parole de Dieu par rapport à l'eschatologie, par rapport au fonctionnement, par rapport à l'espérance de l'Église, par rapport à toutes ces choses-là, tellement que ça l'a influencé tout le monde évangélique. On sait que, mais là, on voit que c'est en décadence encore, mais toute cette redécouverte-là dans l'Église de Philadelphie, c'est un réveil qui a commencé avec les Wesley, un retour à la simplicité de la parole de Dieu pour le rassemblement, l'attachement à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ça a eu une grande influence. Puis il y a eu beaucoup d'écrits. On pense, en anglais, ils appellent ça la vache des frères. C'est-à-dire que c'est tout un enseignement. Puis beaucoup des gens qui ont été très influents dans leur temps, on pense à D.L. Moody, Spurgeon, des gens comme ça, ils ont été influents. C'est parce qu'ils ont été influencés par l'enseignement qui a été redécouvert par ces gens-là dans la parole de Dieu. Puis ils ont eu une grande influence à cause de ça. On sait que Moody, qui était un prédicateur, il y avait c'était un gars qui paraissait tellement jeune, il l'appelait le garçon prêcheur, le boy preacher. Puis lui, Henry Morehouse, puis il voulait venir pour prêcher dans l'église de D.L. Moody. Puis là, D.L. Moody, il n'était pas vraiment impressionné par lui. Mais il continuait toujours de vouloir venir prêcher dans l'église de Moody. Puis à un moment donné, Moody faisait un voyage, puis il a dit, ah, OK. Fait que là, il a fait venir pour qu'il vienne prêcher dans son église. Puis lui, il a commencé à prêcher. Puis là, il a commencé le premier soir sur Jean 3,16. Puis le deuxième soir sur Jean 3,16. Puis le troisième soir sur Jean 3,16. Puis là, Moody demandait à sa femme, comment est-ce que. Ah, il dit, il prêche sur Jean 3,16. Elle dit, il prêche différent de toi. Elle dit, lui, il prêche l'amour de Dieu. Toi, tu prêches le jugement de Dieu. Lui, il prêche l'amour de Dieu. Puis Maudit, à la fin, il est arrivé. Puis là, il est allé les dernières soirées. Puis il a prêché tout le temps sur Jean 3,16. Puis Maudit était tellement impressionné par cette prédication-là qu'il a changé sa façon de prêcher à cause de ça. Puis on sait que Moody, c'était un homme qui était un grand influent dans l'Église. Donc, c'était vraiment un temps merveilleux. Puis l'amour, si on avait l'amour pour le Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur Jésus a dit, et tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais si on a de l'amour pour le Seigneur Jésus, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On va avoir de l'amour pour ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Hein? C'est l'amour, on aime ceux que lui aime. Puis c'était vraiment un réveil merveilleux. C'est pour ça que le Seigneur a dit, t'as peu de puissance. Ça s'est fait dans un sens, ça n'a pas été comme un spectacle éblouissant, mais c'était la puissance. Ce n'est pas les hommes qui en ont ressorti. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, la parole de Dieu qui a été remise à découvert, le Seigneur Jésus qui a été exalté, qui a attiré les âmes vers eux, puis ça a été vraiment un temps béni. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il y a, comme on a dit au début, l'histoire de l'Église a été ponctuée par des réveils, deux réveils. Il y avait dans la persécution, puis maintenant ici. Mais c'est une décadence progressive avec deux réveils. Puis, mais qu'est-ce qui est arrivé après? Ben là, on arrive à Laodicée, à l'Église de Laodicée, qui veut dire la voix du peuple. Puis, on ne peut pas faire autrement que reconnaître le temps dans lequel on vit. Parce que c'est quoi qui est important aujourd'hui, hein? Donnons au monde ce qui va les faire rentrer dans l'Église. Fait que donnons-leur ce qu'ils veulent, puis ils vont venir. C'est vrai, le monde, si on leur donne ce qu'ils veulent avoir, ce qu'ils aiment, n'importe que ce soit n'importe quoi. Il y avait un frère qui disait, de remplir une bâtisse, ça ne veut rien dire. Il dit, si les gens aiment des courses de poulet, faites-leur des courses de poulet, ils vont venir. Mais c'est quoi qui attire? Un autre frère qui disait, ce qu'on va utiliser pour attirer les gens, il va falloir continuer de leur donner pour qu'ils restent, parce que c'est la raison pour laquelle ils sont venus. Si on les a attirés par le divertissement, ben, il va falloir les divertir parce qu'ils sont venus, c'est le but qu'ils sont venus. Mais si on leur donne la parole de Dieu, puis ils sont venus pour la parole de Dieu, il va falloir continuer de leur donner la parole de Dieu. Parce que c'est sûr que, puis il y a un problème aujourd'hui, vous savez, des fois, au lieu de prêcher l'Évangile, on prêche l'Église aux inconvertis. Hein, les gens, ils nous disent, hey, viens à notre Église, ça c'est vraiment le fun, puis tu vois, mais c'est pas, le Seigneur ne nous a pas dit d'aller prêcher l'Église. Parce que ceux qui ne sont pas sauvés, c'est sûr qu'ils sont pas, ils voudront pas se soumettre au Seigneur Jésus-Christ, comme la tête, parce qu'avant qu'on était rebelles, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est sûr que c'est l'Évangile qu'il faut aller prêcher. Quand les gens se convertissent après, c'est ça qu'on voit dans les actes, ils allaient prêcher l'Évangile. Quand les gens se convertissaient, là, on les rassemblait. Et là, on leur enseignait le fonctionnement de l'Église. Mais d'essayer de mettre l'Église acceptable au monde, c'est vraiment de décliner. C'est ça qu'on voit aujourd'hui dans l'Église de Laodicée, là. C'est la voix du peuple. Donnons au peuple ce qu'ils veulent pour qu'ils viennent remplir les sièges. Puis ce qui arrive, c'est quoi? C'est la tiédeur indifférente. Hein, les gens ne sont pas intéressés. C'est pour ça qu'ils viennent, mais aussitôt que ça ne fait plus l'affaire, ils s'en vont. Et c'est pour ça qu'il dit ici, au verset 14, voici, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est pas ce que la parole de Dieu dit qui est important, c'est ce que moi j'aime. Puis le Seigneur, bien, il va se contenter de ça, un peu, dans la façon de penser, c'est moi qui compte, là. Puis on est dans un temps où le moi est tellement. On vit dans une société où le moi est tellement important. Si ça ne marche pas à mon goût, je m'en vais chez nous. Puis c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, là. On est dans ce temps-là. Le Seigneur a dit dans 2 Timothée 3, voici dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes. Puis on regarde cette description-là de ce monde-là. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, égoïste, en anglais, ils disent amoureux d'eux-mêmes. Fait que c'est, fais attention, faut que ça me plaise à moi. Sans ça, ça ne marchera pas. Au lieu de dire, est-ce que ça plaît au Seigneur? Donc, c'est un peu ça qu'on voit ici. Puis je pense qu'on peut reconnaître notre temps dans lequel on vit aujourd'hui, là. C'est vraiment ça. C'est que le temps est presque arrivé. On va s'arrêter là. Il y a le message qui arrive par la suite. Je vais juste peut-être passer rapidement là-dessus, là, à partir de ce qui doit arriver ensuite. C'est son royaume qui va être établi en éliminant tous les scandales, tout le péché, ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui ne se soumettent pas à l'Évangile. Puis là, on a, ben, c'est toute une série, là. Il y a sept sceaux, sept trompettes, sept coupes qui amènent une progression dans les jugements de Dieu. Et on voit aussi, c'est tout, il y a beaucoup le chiffre 7 dans l'Apocalypse. Parce que c'est sûr, c'est le chiffre 7, c'est un chiffre complet. Puis là, ça va être la complétion du jugement de Dieu. Il nous parle de sept trompettes, hein, sept signes, sept visions. Il y a les sept signes qu'on voit, il y a la femme, il y a le dragon, le fils, il y a l'archange, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, l'agneau sur la montagne de Sion avec ceux qui le suivent, les 144 000. Donc, dans toutes ces choses-là, à la fin, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, ben, c'est le jugement de Dieu qui vient sur les habitants de la terre pour les juger. Puis la fin de ça, ça va être dans les temps de feu. Puis le Seigneur Jésus qui va installer son royaume. Puis ensuite de ça, ça va être le règne millénaire de Christ. Ensuite, à la fin, à la dernière rébellion, Satan qui est relâché, ils vont être jugés par le Seigneur, puis ils vont être jetés dans les temps de feu. Puis là, le Seigneur va avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, puis où la justice va habiter éternellement. Fait que je m'arrête là. Je vous donne la possibilité de prendre votre micro. Si vous avez des commentaires ou des questions, on va prendre le temps, si on peut y répondre, de répondre à vos questions.
Une petite question, Gérald.
Okay.
Concernant Constantin, est-ce qu'on pourrait dire que c'est les débuts de l'Église catholique?
Ben oui, parce que ben, c'est ça, c'était le début. Lui, c'est là qu'on a commencé à parler du souverain pontife. C'est un peu le chef, là, c'est lui qui est devenu un peu comme la tête de l'Église, puis à cause de toute l'idolâtrie du monde qui est entrée dans l'Église, ben, ça a devenu un système qu'on connaît aujourd'hui comme le système de l'Église catholique.
Est-ce qu'on peut donner une date approximative?
Vers les années 300, parce qu'il y a eu les 10 empereurs romains, là, qui ont persécuté l'Église. Puis ça, c'est alentour de 300, si je ne me trompe pas, c'est 320, je crois.
OK. Merci, Gérard.
Ce serait à vérifier, là, mais il me semble que c'est ça.
313,
313, OK. Merci, Richard.
selon ce que j'ai lu.
OK.
Mais il n'y a pas juste l'Église catholique, là. Il y a, le roi d'Angleterre est quand même chef de
Ben,
l'Église là-bas, là. Fait que,
ouais, mais
il
c'est
y
ça.
avait d'autres systèmes que l'Église catholique, là.
Ouais, c'est parce que l'Église anglicane, elle, c'était pas vraiment. On appelle les protestants, mais les vrais protestants, c'est l'Église anglicane. Les autres, on a mis le réveil dans le protestantisme. Mais c'est parce que le roi d'Angleterre, qui lui voulait il était divorcé, il voulait se remarier. Le pape ne permettait pas le remariage. Puis lui, il a dit, OK, ça marche, je vais m'en faire une église. Fait qu'il a refait une église sur le modèle. C'est pour ça que l'église anglicane est très. Il a l'image de l'église catholique, sauf qu'au lieu du pape comme chef, c'est le roi d'Angleterre.
Ou la reine.
Ou la reine, quand c'était la reine, c'est ça. Fait que là, tu as le droit de divorce puis de remariage. Mais c'est pour ça que l'Église catholique, au lieu de parler de Luther et des réformateurs, il a mieux parlé du roi d'Angleterre, parce que ça les fait paraître mieux. Donc, c'est comme s'ils nous appellent tous des protestants, mais c'est ça vraiment le protestantisme, c'est que lui, le roi, a protesté contre l'autorité du pape, puis il a formé sa propre Église à l'image de l'Église catholique, sauf que c'est lui le chef. Mais les dénominations aussi, dans un sens, c'est quand les dénominations ils ont un siège social, mais dans un sens, ils se donnent un chef sur la terre. Seigneur avait bien dit, vous n'appellerez personne votre maître ou votre directeur, vous avez un seul directeur, puis c'est le Christ qui est dans le ciel.
Concernant l'église de Thyatire, tu as bien mentionné que ça veut dire sacrifice perpétuel.
Ouais.
Est-ce qu'on peut penser, quand on pense à sacrifice perpétuel, que est-ce qu'on peut penser à la messe?
Ouais, ben
Parce
c'est
que
ça.
c'est ça la définition de la messe, c'est qu'à chaque fois, c'est comme si le Seigneur
Ouais, on répète un sacrifice qui
parfait.
a été fait une fois pour toutes. C'est très
Ouais, c'est
clair dans
ça.
les Hébreux. Ouais. Par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Puis le Seigneur n'aurait jamais pu, parce que son sacrifice était parfait, n'aurait jamais pu. Mais on sait que dans le système catholique, on continue journellement d'offrir le même sacrifice. Ouais. Un peu à l'image de l'Ancien Testament, parce qu'on voit que les sacrifices dans l'Ancien Testament étaient continuels, mais le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ a aboli tous ces sacrifices-là. Puis lui, par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mais il y a une chose aussi qu'on voit, c'est que ces églises-là, comme les quatre églises qu'on voit à la fin, là, le système catholique demeure, le système de la réforme demeure, les églises de la réforme demeurent, le système l'église du réveil demeure, puis l'Odyssée qui est là aussi. Ça fait que les quatre sont à la fin. C'est pour ça qu'il nous parle dans ces quatre-là du retour du Seigneur. C'est comme s'ils se côtoient là, jusqu'à la fin.
Remarque peut-être au niveau de la communion, lorsque j'étais dans le catholicisme, on allait prendre l'hostie, mais on n'avait pas de vin. C'était seulement le pain. Puis on nous enseignait que c'était le corps de Jésus-Christ. Je m'interrogeais à savoir comment ça, nous, on ne pouvait pas prendre de vin, puis que le prêtre, lui, il pouvait avoir le pain puis le vin.
Mais ce qu'on disait, c'est qu'on a retiré la coupe aux fidèles parce qu'on disait que le sang était dans l'hostie. Puis je sais pas si moi, quand j'étais jeune, on nous contait une histoire. Quand on allait commencer à communier, il fallait faire attention pour pas manger l'hostie. Puis il disait il nous racontait l'histoire qu'il y avait un jeune qui, lui, il avait pris l'hostie, puis il l'avait emmené il l'avait pas mangé, il l'avait emmené chez eux, puis il avait piqué un clou dedans, puis il avait saigné. Mais si le sang est encore dans le corps, ça ne représente pas la mort du Seigneur Jésus.
Ben.
Parce que la séparation du sang et du corps, c'est pour ça qu'on a le pain et le vin, le pain qui représente son corps qui a été brisé, le vin qui représente son sang qui a été versé. Mais on voit qu'il continue toujours aussi de mettre le Seigneur Jésus toujours sur la croix pour eux autres. Donc, c'est pas terminé, nous autres, c'est complet. Le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Il est mort selon les Écritures. Il a versé son sang, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Puis ça, c'est vraiment le fondement de l'Évangile. C'est les faits par rapport à l'Évangile. Si on n'a pas cru ces choses-là, Paul il dit qu'on aurait cru en vain. Mais voyez-vous quand même, pour eux autres, c'est pas important ces choses-là.
Merci
Je sais pas si
encore. Je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Jean Hus, Hus. Il reprochait justement à l'Église catholique qu'il y avait seulement l'hostie, il y avait pas le vin.
Ouais.
Puis il est mort sur un bûcher.
Ouais. Quand on s'opposait au système. Ouais. Ça marche, fait que le temps est arrivé, on est même dépassé un petit peu, ça fait qu'on va terminer par un mot de prière. Puis s'il y en a qui veulent continuer de jaser, on peut continuer de jaser. Ça fait que mais ceux qui doivent partir vont pouvoir partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. Puis Seigneur, on veut s'attacher fermement à ta parole. On veut vraiment reconnaître ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, comme notre seul directeur et qui nous dirige par son esprit dans sa parole. Seigneur, donne-nous d'avoir le premier amour, de le garder sérieusement, Seigneur, jusqu'à la fin, afin qu'on soit trouvé et veillant quand tu vas venir pour nous prendre, pour nous emmener avec toi. Merci encore une fois pour ce temps qu'on a pu passer dans ta parole ce soir. On te demande de nous bénir chacun quand on va se séparer et de garder nos cœurs et nos affections envers toi, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.